Chapitre 14. Laurier. Il existe certaines pierres noires, souvent parcourues de veines blanches ou argentées, dont les anciens firent un usage considérable pour leur construction. Il reste au moins une carrière de ce matériau dans les territoires sauvages qui s'étendent au-delà du royaume des montagnes. Mais il est presque sûr qu'on doit en trouver d'autres ailleurs. Il est difficile d'imaginer comment il pourrait en être autrement, alors que cette pierre a servi pour de vastes réalisations architecturales en des lieux très éloignés les uns des autres. Les anciens l'employaient non seulement pour leurs bâtiments, mais aussi pour les monolithes qu'ils érigeaient à certains carrefours. Des qualités insolites des routes qu'ils ont créées, on peut déduire qu'ils l'utilisaient aussi broyée sous forme de gravier. Partout où ils construisaient, cette pierre était leur matériau de prédilection. Et, même dans des territoires où ils ne se rendaient que rarement, on découvre des monuments taillés dans cette roche. L'examen approfondi des pierres témoins de Castelserre convaincra l'observateur que, bien qu'abîmées par les intempéries et peut-être volontairement dégradées par les hommes des temps passés, elles sont faites de ce même matériau. Et certains en ont conclu que les pierres de Castelserre et les autres pierres de serment qu'on trouve dans tous les six duchés, sont l'œuvre des anciens, qui les auraient dressés dans un but inconnu. J'ouvris les yeux dans le grand lit à baldaquin d'imbre, dans la salle de la tour, et je restai un moment désorienté avant de comprendre que je ne rêvais pas. J'étais bel et bien réveillé. Je ne me rappelais pas m'être couché. Je me revoyais seulement m'asseyant quelques instants au bord du lit. Je portais encore mes vêtements de la veille. Je me redressais avec d'infinies précautions, mais le fracas de forge qui le jour précédent résonnait dans ma tête s'était réduit à un bourdonnement monotone. La salle paraissait déserte. Cependant, quelqu'un s'y était trouvé récemment. Une bassine d'eau pour les ablutions fumait près de l'âtre à côté d'un bol de gruau fermé par un couvercle. Je me servis avec empressement de ces deux objets selon leur but propre. Mon estomac renâclait toujours, mais je me raisonnais et mangeais stoïquement. Après quoi, je fis une rapide toilette, mis une bouilloire à chauffer pour me préparer de la tisane, puis me dirigeai vers la table de travail. Une grande carte de serre y était déroulée, maintenue aux quatre coins par un mortier, deux pilons et une tasse. Un verre à vin retourné était posé au milieu du parchemin. Quand je le soulevai, je lus en dessous le nom de Myrteville. Le château se dressait au bord d'un affluent de la Serre, au nord-ouest du duché, sur la rive opposée à Castelserre. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais je m'efforçais de me rappeler ce que j'en savais. Cela ne me prit guère de temps. J'en ignorais absolument tout. Mon vif m'avertit de l'arrivée d'Imbre, et je me retournai vers la porte secrète à l'instant où elle s'ouvrait. Mon mentor rentra d'un pas vif. L'air frais du matin avait rosi ses pommettes et sa chevelure blanche avait des reflets d'argent.
« Ah, tu es debout, parfait !» dit-il en guise de salut. « Je me suis arrangé pour partager le petit déjeuner de cire dorée malgré l'absence de son valet. Il m'a assuré qu'il pouvait être prêt à partir d'ici quelques heures. Il a déjà trouvé un prétexte pour le voyage.
« Quoi ? » fis-je, les idées embrouillées. Imbre éclata de rire.
« Les plumes, crois-le ou non !» Sire Doré entretient toutes sortes de passe-temps intéressants, et sa passion actuelle, ce sont les plumes d'oiseaux. Plus elles sont grandes, plus leurs couleurs sont vives, et plus il est heureux. Or, Myrteville se situe près d'une région de collines boisées, réputée pour ses faisans, ses tétras et autres mèches de fouet. Ces derniers possèdent un plumage assez extravagant, en particulier à la queue. Sire Doré a déjà envoyé un coureur demander l'hospitalité à Dame Brésinga de Myrteville pour le temps de ses recherches. Elle ne la lui refusera pas. Notre illustre seigneur est un personnage en vogue à la cour de Castelserre, et il crée une sensation telle qu'on n'en a pas vu depuis plus de 10 ans. Ce sera un rêve devenu réalité pour Dame Brésinga de le recevoir dans son château.
Il se tut, mais c'est moi qui repris mon souffle. Je secouai la tête comme pour remettre mon cerveau à l'endroit et me permettre de comprendre les propos d'Imbre. Le fou se rend à Myrteville pour retrouver devoir.
« Oh là !» fit mon vieux maître. « Sire Doré se rend à Myrteville pour chasser des oiseaux. Naturellement, son valet, Tom Blaireau, l'accompagne, et j'espère que tout en traquant le gibier, tu tomberas sur la piste du prince. Mais c'est là une mission, tout ce qu'il y a d'officieux.
Je pars donc avec lui?
Évidemment! Humbre me jeta un regard perçant. Tu te sens bien, Fitz? Tu m'as l'air d'avoir les idées brumeuses ce matin.
C'est exact. J'ai l'impression que tout va trop vite pour moi.
Je me retins d'ajouter que j'avais pris l'habitude d'organiser seul mes journées et mes déplacements et que j'éprouvais quelques difficultés à reprendre une existence où chacun de mes jours était soumis aux décisions d'un autre. Qu'avais-je donc espéré? Si nous voulions retrouver le prince de Voir, je devais jouer le jeu. Je fis un effort pour stabiliser mes pensées. Dame Brisinga a-t-elle une fille? Humbre réfléchit.
Non, seulement un fils, civil. À une époque, il me semble, elle a pris en charge une de ses cousines. Il s'agissait sans doute de Vive Brisinga, qui a... Voyons, elle doit avoir près de 13 ans aujourd'hui. Elle est retournée chez elle le printemps dernier.
Je secouai la tête à la fois en signe de négation et d'étonnement. Manifestement, Humbre avait remis à jour ses renseignements sur la famille Brisinga depuis la veille. J'ai senti la présence d'une femme, non d'une enfant. Une femme attirante. J'avais failli dire séduisante. Quand je repensais à ce que j'avais vécu la nuit précédente, le rêve devenait mien, et je ne me rappelais que trop bien à quel point elle m'avait excité les sangs. Je la sentais tentatrice, provocante. Je levai les yeux vers Humbre. Il m'observait sans chercher à cacher son trouble. Je repris le fil de mes questions. Devoir a-t-il exprimé de l'intérêt pour une femme? Aurait-il pu s'enfuir avec elle?
Aïda ne plaise! S'exclama Humbre avec ferveur. Non!
On eût dit une bête traquée.
Il n'y a pas de femme dans la vie de Devoir, pas même une jeune fille de son âge qui retienne son attention. Nous avons pris grand soin de ne jamais lui laisser l'occasion de nouer de tels liens. Ketriken et moi avons décidé il y a des années que cela vaudrait beaucoup mieux pour lui.
D'un ton plus calme, il poursuivit.
Elle ne voulait pas voir son fils déchiré comme toi entre son cœur et son devoir. N'as-tu jamais songé que tout aurait pu être différent si tu n'étais pas tombé amoureux de Molly, si tu avais accepté l'union prévue avec Dame Célérité?
Si, mais jamais je ne regretterais d'avoir aimé Molly. La véhémence de ma réponse convainquit Humbre de changer de sujet.
Un tel amour n'existe pas dans la vie de devoir,
déclara-t-il d'un ton catégorique.
Naguère oui, mais ce n'est peut-être plus le cas, ripostai-je.
Alors je souhaite ardemment qu'il ne s'agisse que d'une amourette sans lendemain, à laquelle on puisse promptement...
Il chercha l'expression adéquate.
Mettre fin.
Il fit la grimace en entendant ses propres mots.
Le petit est déjà fiancé. Ne me regarde pas comme ça, Fitz.
Je détournai docilement les yeux. Je n'ai pas l'impression qu'il connaisse cette femme depuis longtemps. Une partie de sa séduction provenait de son mystère.
Il nous faut donc nous efforcer de le retrouver rapidement, avant qu'il y ait trop de dégâts.
Je posai une question née de mon expérience personnelle. Et s'il ne veut pas que nous le ramenions? Demandai-je à voix basse. Humbre se tut un moment, puis il répondit avec une sincérité non feinte.
Alors tu devras faire ce qui te paraîtra le mieux.
Mon effarement dut se lire sur mon visage, car il éclata de rire.
« Voyons, je ne vais tout de même pas faire semblant de croire que tu en feras autrement qu'à ta tête. »
Il reprit son souffle et poussa un soupir.
« Fitz, voici tout ce que je te demande. Réfléchis à grande échelle. Le cœur d'un adolescent est précieux, tout comme la vie d'un homme, mais l'entente entre les habitants des six duchés et ceux des îles d'outre-mer l'est encore plus. Ainsi donc, fais ce qui te paraît le mieux, mais réfléchis bien au préalable.
Vous me laisseriez tant de latitude. Je n'en crois pas mes oreilles, m'exclamai-je.
Vraiment? C'est peut-être que je te connais mieux que tu ne l'imagines.
Peut-être, fis-je, en me demandant à part moi s'il me connaissait aussi bien qu'il le pensait.
Ah, Fitz,
Tu n'es arrivé que depuis quelques jours et voici que je t'envoie déjà en mission, » dit-il brusquement. Il me donna une claque amicale sur l'épaule, mais son sourire était un peu contraint. « Peux-tu être prêt à partir d'ici une heure ?»
Je n'ai pas grand-chose à empaqueter, mais il faut que je descende à bord de Castelserre, chez Gina, afin d'y laisser un message pour Heure.
« Je peux m'en occuper, si tu veux, » proposa Humbre.
Je fis non de la tête. Elle ne sait pas lire, et en tant que Tom Blaireau, je ne peux pas confier mes propres commissions à quelqu'un d'autre. Non, je vais m'en charger.
« Comme il te plaira, » répondit Humbre. « Je vais préparer une lettre que ton garçon remettra à Maître Guindast quand il se présentera pour son apprentissage. Personne ne se doutera de rien. Le menuisier croira prendre Heure comme élève en réponse à une faveur que lui aura demandé un de ses clients les plus riches. »
Il se tut un instant.
« Nous ne pouvons donner à ton garçon que l'occasion de faire ses preuves, tu le sais. Je ne peux pas obliger son maître à le garder s'il se révèle maladroit ou paresseux. »
Il sourit d'un air espiègle devant mon expression outragée.
« Mais je suis sûr qu'il n'est rien de tout cela. Laisse-moi une minute pour tourner la lettre que Heure présentera. »
Il y fallut plus d'une minute, naturellement, et quand j'eus enfin la missive en main, je dus me hâter pour rattraper la matinée qui s'enfuyait. Je tombai nez à nez avec Sire Doré alors que je sortais de ma petite chambre obscure. Je portais les vêtements dans lesquels j'avais dormi, et il eut un claquement de langue désapprobateur devant ma tenue. Il m'ordonna d'aller chercher mes nouveaux habits chez le tailleur afin de me rendre présentable pour le voyage que nous effectuerions seuls et rapidement. Le seigneur Doré avait acquis une solide réputation d'esprit excentrique et aventureux, si bien que nul ne s'étonnerait de notre expédition. Il m'apprit aussi qu'il avait choisi une monture pour moi, qu'il la faisait ferrer de frais et que je pouvais passer la prendre chez un maréchal ferrant dont il me donna l'adresse. Il supposait que je souhaitais acheter moi-même ma sellerie, et il me remit une nouvelle lettre de crédit à cet usage avant de me congédier. Pas un instant il ne s'était départi de ses manières d'aristocrate, et j'avais conservé pour ma part mon attitude soumise de valet. Nous devions tous deux nous glisser dans la peau de nos personnages et nous y habituer le plus vite possible. Aucune erreur ne serait permise une fois que nous apparaîtrions ensemble en public. Je me mis enfin en route pour Bourg de Castelserre, surchargé de commissions, alors que le soleil traversait le ciel avec une hâte excessive. Le tailleur tenta de me retenir pour un dernier essayage et d'ultimes retouches à mes nouvelles tenues. Je refusais sans même ouvrir le paquet pour examiner les vêtements. Manifestement, Scrandon avait pour habitude de faire toute une cérémonie lorsqu'il remettait leurs commandes à ses clients, mais je lui déclarais sans embâge que le seigneur Doré m'avait demandé de faire vite. L'homme prit alors un air hautain et répondit qu'il déclinerait toute responsabilité si les vêtements ne m'allaient pas. Je l'assurai que je ne viendrais pas me plaindre et quittai rapidement la boutique, embarrassé de son volumineux colis. Je me rendis ensuite chez Gina, mais à ma grande déception, sa nièce m'apprit qu'elle était sortie et qu'elle ignorait quand elle serait de retour. Fenouil vint m'accueillir.
« Tu m'aimes, tu le sais bien. Prends-moi dans tes bras. »
Je ne vis pas l'intérêt de refuser et j'obéis. Il planta ses griffes dans mon épaule tout en se frottant la tête contre mon pourpoint pour marquer sa propriété.
Gina est partie dans les collines hier soir et elle y a passé la nuit pour ramasser des champignons dès son réveil. Elle peut revenir d'un instant à l'autre, comme elle peut ne rentrer qu'à la nuit tombante, me dit Miskia. Allons, Fenouil, cesse d'embêter les gens, viens ici.
Elle prit le chat dans mes bras, puis fit une moue désolée devant mon pourpoint couvert de poils roux. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, fis-je. Ce qui m'amène est beaucoup plus gênant. Et je lui expliquai que mon maître avait brusquement décidé de s'en aller en voyage et que je devais l'accompagner. Je lui laissai la lettre qu'Imbre avait écrite pour le maître menuisier, ainsi qu'un message de ma part pour Heure. Œil de Nuit ne serait pas content d'arriver à la ville et d'apprendre que je ne m'y trouvais plus, et il n'apprécierait pas non plus d'y rester à m'attendre. Avec retard, je m'aperçus que je ne laissais pas que mon fils au bon soin de Gina, mais aussi un loup, une ponette et une carriole. Imbre pourrait-il s'arranger pour m'aider ? Je n'avais pas un sou à remettre à Gina pour cette charge supplémentaire. Je ne pouvais que la remercier profondément et l'assurer que je rembourserais toutes les dépenses que lui coûterait leur entretien.
« Vous me l'avez déjà dit, Tom,
me gourmanda gentiment Miskia avec un sourire manifestement attendri par mes appréhensions. Fenouil fourra sa tête contre le menton de la jeune fille et me regarda d'un œil sévère.
« Cela fait 3 fois que vous me le répétez. Vous serez bientôt de retour et vous nous paierez bien. Soyez tranquille, votre fils sera le bienvenu et nous prendrons soin de lui. Que vous nous payiez ou non. Avez-vous demandé de l'argent à ma tante quand vous l'avez accueillie chez vous? Ça m'étonnerait. »
À ces mots, je me rendis compte que je répétais sans fin les mêmes propos qui me donnaient l'air d'une poule inquiète. Avec un effort, je cessai de rabâcher que mon départ était inattendu et urgent, et quand j'eus fini de remercier maladroitement Miskia encore une fois, je me sentis complètement désorganisé et embrouillé, éparpillé comme si j'avais laissé des parties de moi-même dans ma chaumine abandonnée, en compagnie d'œil de nuit et de heurts, et même dans la salle de la tour à Castelserre. J'éprouvais une sensation de faiblesse et de vulnérabilité.
« Eh bien, au revoir, » dis-je à la jeune fille.
« Dormir au soleil est plus agréable. Fais une sieste avec le chat, »
me suggéra Fenouil, alors que Miskia me répondait. « Bon voyage. » Je m'éloignais de la boutique de Gina, rongé de remords. Je me déchargeais de mes responsabilités sur des étrangers. Je niais avec la plus grande fermeté ressentir de la déception de n'avoir pas vu Gina. Le baiser qu'elle m'avait donné restait en suspens, comme une conversation inachevée, mais je refusais de réfléchir au cap sur lequel il pouvait orienter ma vie. La situation était déjà bien assez compliquée, sans que j'aille ajouter un nouveau fil à l'enchevêtrement de mon existence. Pourtant, j'avais bel et bien espéré rencontrer Gina, et ma déconvenue ternissait l'exaltation du voyage à venir. Car reprendre la route me remplissait de bonheur. Et le sentiment de culpabilité que j'éprouvais d'avoir laissé Heure aux soins de quelqu'un d'autre était le reflet déformé de l'impression de libération que suscitait en moi l'entreprise où je me lançais. Sous peu, le fou et moi allions nous précipiter dans elle savait quelle aventure, sans avoir à nous soucier que de nous-mêmes. Le temps restait au beau fixe, le fou était un bon compagnon, le trajet s'annonçait donc agréable, et j'y voyais davantage des vacances qu'une mission secrète. Mes craintes pour le prince de voir s'étaient en grande partie calmées après mon rêve de la nuit précédente. Le garçon ne courait aucun danger physique. Le seul risque était pour son jeune cœur, enivré qu'il était par la nuit et la femme qu'il poursuivait. Et cela, nul ne pouvait l'en protéger. Pour dire toute la vérité, je ne considérais pas ma tâche comme particulièrement difficile. Nous savions dans quelle région rechercher le jeune adolescent, et avec ou sans mon loup, j'avais toujours été bon pisteur. Si le seigneur Doré et moi-même ne parvenions pas à débusquer rapidement de Myrteville le jeune prince, je me lancerais sur ses traces dans les monts environnants et le rattraperais. Notre absence de Castelserre ne durerait guère. Rassuré par cette pensée, j'apaisai ma conscience et me rendis chez le maréchal Ferrand. Je ne m'attendais pas à une monture de grande qualité, et je redoutais même que le sens de l'humour du fou ne se fût exprimé dans le choix de Sire Doré. Je trouvai la fille de l'artisan en train de se rafraîchir en s'aspergeant avec de l'eau d'une barrique, et lui annonçai que je venais prendre le cheval laissé affairé par le seigneur Doré. Elle acquiesça de la tête et rentra dans l'atelier. Je l'attendis dehors. Il faisait bien assez chaud au soleil. Je n'avais nulle envie de pénétrer dans le vacarme et la chaleur infernale de la forge. La jeune fille ressortit bientôt avec une grande jument noire à la longe. Je fis le tour de l'animal, puis je m'aperçus, en levant les yeux, qu'il m'observait avec la même méfiance que je le regardais moi-même. Il paraissait en bonne santé et ne portait aucune trace de mauvais traitement. Je tendis délicatement mon vif vers lui, il renifla et détourna la tête, refusant le contact. L'amitié d'un homme ne l'intéressait pas.
« J'en ai bavé pour la ferrer, celle-là !»
lança d'une voix sonore le maréchal Ferrand en se dirigeant vers moi, couvert de transpiration.
« Cette jument, elle ne fait pas un effort pour lever la patte, et en plus, elle rue dès que l'occasion se présente. Alors faites attention. Elle a essayé de mordre ma fille, en plus. Mais tout ça, c'était pendant qu'on la ferrait. Le reste du temps, elle s'est plutôt bien tenue. »
Je remerciai l'homme de ses mises en garde et lui remis la bourse promise par Sire Doré. « Connaissez-vous son nom ?» demandai-je. L'artisan fit la moue, puis secoua la tête.
« Je ne l'avais jamais vu avant ce matin. Si elle avait un nom, elle a dû le perdre entre deux maquignons. Appelez-la comme vous voulez. De toute façon, il y a des chances qu'elle ne réponde pas. »
Je décidai de réfléchir plus tard à la question. Le vieux licou de la monture était compris dans le prix, et je m'en servis pour l'amener chez un bourrelier, où je choisis une selle et un harnais simple et pratique. Malgré tous mes efforts de marchandage, je dus verser une somme que je jugeais scandaleuse, tandis que l'expression du commerçant disait clairement qu'il trouvait mes exigences extravagantes, et en sortant, avec mes achats sur l'épaule, je me demandais s'il n'avait pas raison. Jamais je n'avais dû acheter mon équipement moi-même. Peut-être l'obsession de Burig de réparer lui-même son matériel se fondait-elle sur le prix des pièces neuves. La jument s'était montrée rétive alors que je lui essayais différentes selles, et quand je voulus la monter, elle s'écarta en crabe. Une fois que j'eus réussi à me hisser sur elle, elle répondit aux rênes et aux genoux, mais avec mollesse. Je contins mon mécontentement en m'exhortant à la patience. Peut-être, une fois que nous aurions pris la mesure l'un de l'autre, m'obéirait-elle mieux. Et, si ce n'était pas le cas, ma foi, c'était encore de la patience qu'il fallait pour débarrasser un cheval de ses mauvaises habitudes. Mieux valait m'y faire tout de suite. Tandis que je la menais prudemment par les rues escarpées de Bourg-de-Castelserre, je songeais que j'avais peut-être joui d'une enfance et d'une jeunesse plus gâtée que je ne le soupçonnais. Monture de qualité, excellent harnachement, armes de choix, beaux atours, table toujours bien garnie. Tout cela me paraissait naturel.
Un cheval! Je peux apprendre à un cheval tout ce qu'il lui faut savoir. Pourquoi as-tu besoin d'un cheval?
Œil de nuit s'est écoulé si aisément dans mon esprit que j'avais à peine remarqué qu'il partageait mes pensées. Je dois partir avec le sans-odeur.
Es-tu obligé d'y aller à cheval?
Il ne me laissa pas le temps de répondre, mais je perçus son agacement.
Attends-moi, je suis presque arrivé.
Œil de nuit, non, ne viens pas, ne quitte pas le petit. Je serai bientôt de retour. Mais il avait disparu, et mon injonction demeura sans réponse. Je tendis mon vif, sans rien détecter que du brouillard. Il refusait de discuter. Il refusait d'entendre mon ordre de rester avec Heur. Les gardes des portes m'accordèrent un bref coup d'œil et me laissèrent entrer. Je décidai de parler à Imbre de leur attitude. Ma livrée bleue ne signifiait pas automatiquement que j'avais le droit de pénétrer dans le château. Je gagnai les portes des écuries, mis pied à terre, puis me figeai, le cœur battant. À l'intérieur du bâtiment, quelqu'un expliquait d'un ton enjoué comment on nettoyait correctement les sabots d'un cheval. La voix était devenue plus grave au cours des ans, mais cela ne m'empêcha pas de la reconnaître. Pogne, mon ami d'enfance, et désormais maître des écuries de Castelserre, se tenait à quelques pas de moi, et seul un mur nous séparait. Je sentis ma bouche se dessécher. La dernière fois qu'il m'avait vu, il avait cru se trouver en présence d'un revenant ou d'un démon, et il s'était enfui en criant à la garde. Cela datait de bien des années, et j'avais beaucoup changé. Mais je n'arrivais pas à me convaincre de m'en remettre au seul passage du temps pour camoufler mon identité. Et je cherchais refuge dans celle de Tom Blaireau. « Hé, petit, » dis-je à un jeune garçon qui traînait là, « occupe-toi de ma monture. Elle appartient à Sire Doré. Alors veille à bien la traiter. »«
Oui, monsieur, » répondit-il. « Le seigneur Doré nous a fait prévenir d'attendre un certain Tom Blaireau monté sur une jument noire et de seller son propre cheval dès son arrivée. » Il vous fait dire de le rejoindre tout de suite dans ses appartements. »
Et sans un mot de plus, il emmena ma jument. Je poussai un soupir, soulagé d'avoir franchi aussi aisément l'obstacle de Pogne, et je m'éloignai des écuries. Je n'avais pas fait 10 pas qu'un homme me dépassait, visiblement pressé, sans m'accorder un regard. Les yeux écarquillés, je l'observais. Pogne s'était un peu épaissi de la taille, mais moi aussi après tout. Ses cheveux noirs commençaient à se clairsemer, tandis que ses poils poussaient plus drus que jamais sur ses bras musculeux. Il passa l'angle d'un bâtiment et disparut. Je restai les yeux dans le vide, avec l'impression d'être bel et bien un fantôme, invisible dans son monde. Enfin, je retrouvai ma respiration et pressai le pas. Le temps passant, Pogne apercevrait Tom Blaireau çà et là dans le château, et, le jour où nous tomberions nez à nez,
J'aurais endossé cette identité si parfaitement qu'il ne la mettrait pas en doute un instant. Mon existence sous le nom de Fitz m'apparut soudain comme des empreintes de pas sur un sol poussiéreux, effacées, remplacées par d'autres traces plus récentes, et mon humeur ne s'améliora pas quand, alors que je traversais la grande salle, j'entendis Sir Doré m'interpeller soudain.
« Ah, vous voici, Tom Blaireau. Pardonnez-moi, mesdames, mon valet est enfin arrivé.
Adieu, et portez-vous bien en mon absence. »
Je le vis s'extraire d'une troupe d'aristocratiques jacasses. Elles le laissèrent partir à contre-cœur, battant des cils et de l'éventail sur son passage, et l'une d'elles eut même une jolie moue déçue. Le seigneur Doré leur décocha un sourire empreint de tendresse, puis se dirigea vers moi en les saluant d'un geste de la main élégant et langoureux.
« Vous avez fini vos courses ? Parfait. Nous allons donc pouvoir achever nos préparatifs et nous mettre en route tant que le soleil est encore haut. »
Il passa devant moi d'une démarche impérieuse, et je lui emboîtai le pas à distance respectueuse, en hochant la tête à mesure qu'il me donnait ses instructions sur la façon dont je devais emballer ses affaires. Mais quand nous parvînmes dans ses appartements et que je fermai la porte derrière nous, je constatai que ses sacs de voyage nous attendaient, pleins à craquer sur un fauteuil. Je me retournai en l'entendant pousser le verrou, et il montra du doigt la porte de ma chambre à l'instant où elle s'ouvrait pour livrer passage à Ambre.
« Enfin te voici !» dit mon vieux maître. « Ce n'est pas trop tôt. J'ai rapporté ce que tu as appris à la reine, et elle t'ordonne de partir sans plus attendre. Elle ne sera complètement rassurée, je crois, que lorsque son fils sera revenu sous son toit. Moi aussi, d'ailleurs. »
Il se mordilla la lèvre, puis annonça, davantage à l'adresse de Sire Doré qu'à la mienne.
« La reine a décidé de vous faire accompagner par la grand-veneuse Laurier. Elle s'apprête en ce moment même.
Mais nous n'avons pas besoin d'elle !»
s'exclama le seigneur Doré d'un ton agacé.
« Moins de gens seront au courant de cette affaire, mieux cela vaudra. C'est la grand-veneuse personnelle de Sa Majesté et sa confidente sur bien des sujets. » Sa famille maternelle habite à moins d'une journée de cheval de Myrteville, et elle affirme bien connaître la région pour y avoir vécu enfant, si bien qu'elle vous sera peut-être utile. En outre, Ketriken est résolu à ce que vous l'emmeniez, et je suis bien placé pour savoir qu'il est vain de discuter avec la reine lorsque sa volonté est arrêtée.
« J'en ai moi-même une certaine expérience. »
C'était Sire Doré qui avait parlé, mais j'avais reconnu le fou dans le ton lugubre de sa voix. Et un sourire tirailla le coin de ma bouche. Je savais, moi aussi, ce que c'était de se sentir ployé sous l'azur inflexible du regard de notre reine. Je me demandais qui était cette Laurier, et comment elle s'y était prise pour gagner la confiance de notre souveraine. Éprouvais-je un pincement de jalousie à l'idée que quelqu'un m'eût remplacé dans le rôle de confident de Ketriken ? Il y avait 15 ans que je l'avais quitté. Espérais-je vraiment qu'elle ne m'avait pas trouvé de successeur ? Mécontente mais résignée, la voix de Sire Doré interrompit mes réflexions.
« Eh bien, qu'il en soit ainsi, puisqu'il le faut. Elle peut nous suivre, mais je refuse de l'attendre. Tom, vos bagages sont faits, n'est-ce pas ?»«
Presque, » répondis-je, jouant le jeu. Puis je me rappelais mon personnage et ajoutai « Monseigneur, il ne me faudra qu'un instant. J'ai peu d'affaires à emporter. »
« Très bien. » « N'oubliez pas les vêtements de Scrandon, car je veux vous voir convenablement habillé pour me servir à Myrteville. »«
Comme il vous plaira, messire. » Et je passai dans ma chambre, où je fourrai le paquet du tailleur dans les fontes neuves que j'y trouvais. Elle portait l'emblème au faisan du seigneur Doré. J'y glissai quelques-uns de mes vieux oripeaux pour les expéditions nocturnes que je m'attendais à effectuer à Myrteville, puis je parcourus la pièce des yeux. Je portai mon épée à la hanche, et il n'y avait rien d'autre à ajouter à mon paquetage, ni poison, ni petites armes astucieuses à usage discret. Je me sentis tout à coup étrangement nu sans cet équipement, bien que je m'en fusse passé depuis des années. Alors que je ressortais, mes fontes sur l'épaule, Ambre leva la main pour m'arrêter.
« Un petit quelque chose en plus, »
fit-il d'un air gêné, et sans croiser mon regard, il me tendit un rouleau de cuir souple. Je n'eus pas besoin de l'ouvrir pour en connaître le contenu, passe-partout et autres instruments raffinés du métier d'assassin. Sire Doré détourna les yeux pendant que j'introduisais le trousseau dans mon paquetage. Autrefois,
Mes vêtements comportaient des poches secrètes pour ce genre d'objet. Aujourd'hui, j'espérais ne pas être obligé de mettre ma formation en pratique assez longtemps pour avoir à me soucier de tels détails. Nos adieux furent à la fois précipités et insolites. Sire Doré prit un ton compassé, comme si toute une troupe d'inconnus était témoin de la scène. Pensant devoir suivre son exemple, je m'inclinai en bon serviteur devant Imbre, mais il me saisit par les bras et me serra sur son cœur.
« Merci, mon garçon, » murmura-t-il à mon oreille. « Va vite, et ramène-nous de voir, et ne sois pas trop dur avec lui. C'est ma faute autant que la sienne. »
Je m'enhardis alors à répondre. « Veillez sur mon garçon, dans ce cas, et sur Œil de Nuit. Je n'avais pas réfléchi que je le laissais lui aussi à la charge de Dina, ainsi qu'une ponette et une carriole.
« Je m'assurerai qu'il ne leur arrive aucun mal, » dit-il,
et il vit dans mes yeux, j'en suis sûr, la reconnaissance que j'éprouvais. Puis, je me hâtai de déverrouiller la porte devant Sire Doré et le suivis, encombré de nos paquetages, tandis qu'il traversait Castelserre à grandes enjambées. De nombreuses personnes lui crièrent au revoir sur son passage, et il y répondit, avec chaleur mais brièvement. S'il avait vraiment espéré prendre Laurier de Vitesse, il fut déçu. Elle nous attendait à la porte des écuries, nos trois montures à la bride, et elle manifestait tous les signes de l'impatience. Je lui donnais entre 25 et 30 ans. Bâtie en force, bien découplée et bien musclée, un peu comme Kétriken elle-même, elle n'en conservait pas moins des formes féminines. Elle n'était pas servienne, car les femmes de chez nous sont de petite taille et sombres de chevelure, or elle ne présentait aucun de ses traits. Elle n'avait pas non plus la blondeur de Kétriken, mais ses yeux étaient bleus, et le soleil avait donné des reflets d'or à ses cheveux châtains, presque blancs aux tempes, et hâlé son visage et ses mains. Elle avait le nez droit et fin, la bouche ferme et le menton décidé. Elle portait la tenue de cuir des chasseurs, et sa monture était un de ces petits chevaux nerveux qui bondissent par-dessus les obstacles, comme un chien terrier, et sont capables de filer comme des belettes dans les taillis les plus impénétrables. C'était un hongre sans grande distinction, mais ses yeux brillaient de vivacité. Le petit paquetage de Laurier était attaché derrière sa selle. À notre approche, Malta leva la tête et se mit à hennir avec impatience. Ma jument noire, elle, ne réagit pas, aucunement intéressée par ce qui se passait. Je m'en sentis curieusement humilié.
« Bonjour, grand veneuse Laurier, » dit Sire Doré. « Vous êtes prête à partir, je vois. »«
Oui, monseigneur, je n'attends que votre signal. »
Et tous deux me regardèrent. Me rappelant soudain que j'étais le valet de Sire Doré, je pris les rênes de Malta des mains de Laurier et les tins pendant que mon maître montait en selle. Je sanglais nos fondes sur ma jument, qui n'accepta ce traitement qu'avec réserve. En me remettant ses rênes, Laurier sourit, puis me tendit la main.
« Laurier, de la famille de Dune, près de Bergecave, je suis la grand-veneuse de Sa Majesté. »«
Tom Blaireau, serviteur du Seigneur Doré, » répondis-je en m'inclinant. Le seigneur en question avait déjà commencé à faire avancer sa jument avec un superbe dédain pour nos échanges de roturiers. Nous enfourchâmes nos montures en hâte et le suivîmes.
« Et d'où est votre famille, Tom ?»
demanda Laurier.
« De la région de Forges, près de la Roncière. »
La Roncière était le nom dont Heur et moi avions baptisé le ruisseau qui passait près de notre chaumière. S'il en portait un autre, je ne le connaissais pas. Néanmoins, cette ascendance inventée au vol parut satisfaire Laurier. Ma jument m'agaçait. Elle rongeait constamment son mors et tentait de passer en tête. À l'évidence, elle n'avait pas l'habitude de suivre un autre cheval, et sa foulée était plus longue que celle de Malta. Je parvins à la tenir à sa place, mais ce fut un combat incessant entre nos deux volontés. Laurier me lança un regard compréhensif.
« C'est une nouvelle monture ?»«
Je ne l'ai que depuis la demi-journée. » Découvrir son caractère au cours d'un voyage n'est peut-être pas le meilleur moyen d'apprendre à la connaître. La jeune femme eut un sourire malicieux.
« Non, mais c'est peut-être le plus rapide, et de toute façon, vous n'avez guère le choix. »
Nous quittâmes le château par la porte de l'ouest. Dans ma jeunesse, cette issue restait la plupart du temps fermée, et la route qui en partait n'était guère plus qu'un chemin de chèvre. Aujourd'hui, le passage était grand ouvert, surveillé par un petit poste de garde. Nous le franchîmes quasiment sans nous arrêter, et nous retrouvâmes sur une piste visiblement fréquentée, qui coupait à travers les hauteurs auxquelles s'appuyait Castelserre, avant de descendre en serpentant jusqu'au fleuve. Les sections les plus raides avaient été éliminées et le sentier élargi. Les ornières qui le creusaient m'indiquèrent que des charrettes l'empruntaient, et alors que nous approchions du fleuve en suivant les lacets à flanc de colline, j'aperçus en contrebas, à mon grand étonnement, des quais et des toits d'entrepôts. Je me remettais à peine de ma surprise quand j'entrevis des maisons en retrait sous les arbres. « Mais personne n'habitait ici autrefois, » dis-je, puis je me mordis la langue pour me retenir d'ajouter que le prince Vérité adorait chasser dans ces bois, qui ne devaient d'ailleurs plus guère abriter de gibier. On avait abattu des arbres pour cultiver de petits jardins, et des ânes et des poneys paissaient sur des prairies jadis inexistantes. Laurier hocha la tête. « Vous n'avez pas dû revenir par ici depuis la fin de la guerre des pirates rouges ? Toutes ces constructions sont apparues au cours des 10 dernières années. Avec la reprise du commerce, beaucoup de gens ont voulu s'installer dans la région de Bourg-de-Castelserre et assez près du château, si jamais les attaques recommençaient. » Je ne sus que répondre, encore stupéfait de l'extension de la ville. Alors que nous arrivions près des quais, je repérai même une taverne et un local d'embauche pour les bateliers. Nous longeâmes des entrepôts qui donnaient sur les appontements, et je remarquai de nombreuses carrioles tirées par des ânes, moyen de transport apparemment le plus prisé de la nouvelle bourgade. Des bateaux camus déchargeaient du fret venu de Bauges et de la bourre par la serre. Nous passâmes devant une deuxième taverne, puis devant plusieurs hôtelleries à bon marché, telles que les apprécient les marins. La route remontait le cours du fleuve, parfois large et sablonneuse, parfois recouverte d'épaisses planches à peine dégrossies, lorsque le sol devenait spongieux. Les chevaux de mes compagnons ne paraissaient pas y prêter attention. Même ma jument ralentissait le pas et rabattait les oreilles en arrière chaque fois que nous passions sur ces sortes de caillebotis. Elle n'aimait pas le claquement sonore de ses sabots sur le bois. Je posai la main sur son garrot et tendis mon vif vers elle pour tenter de la rassurer. Elle tourna la tête pour me regarder, mais demeura sur sa réserve. Elle aurait sans doute refusé d'avancer sans les deux autres chevaux devant elle. Manifestement, ses congénères l'intéressaient bien davantage que l'amitié que je lui offrais. Je secouai la tête en m'étonnant de la différence entre elle et les montures aimables qui peuplaient les écuries à l'époque de Burick. Le fait qu'il avait lui-même le vif y était-il pour quelque chose? Quand une jument poulinait, il restait près d'elle, et le petit connaissait le contact de sa main en même temps qu'il apprenait le coup de langue de sa mère. La présence d'un humain à leur naissance suffisait-elle à rendre les animaux des écuries plus tolérants, ou bien était-ce le vif de Burick, réprimé mais toujours présent, qui les poussait à me faire bon accueil? Le soleil de l'après-midi nous écrasait de sa chaleur et se reflétait sur la vaste surface lisse du fleuve. Le bruit sourd des sabots de nos montures faisait un contrepoint agréable à mes réflexions. Pour Burick, le vif était une magie noire et ignoble qui induisait chez moi la tentation constante de me laisser dominer par ma nature bestiale. La tradition populaire lui donnait raison et allait plus loin encore. Elle considérait le vif comme un instrument du mal. Une magie honteuse qui menait ceux qui la pratiquaient à l'avilissement et à la perversion, et dont le seul remède reconnu était la mort et le démembrement. À cette pensée, je sentis s'effriter mon calme devant la disparition de devoir. Certes, il n'avait pas été enlevé, mais bien que je l'eusse retrouvé grâce à l'art, c'était indubitablement du vif qu'il se servait lors de ses chasses nocturnes, et s'il se trahissait devant quelqu'un, il risquait l'exécution pure et simple. Son statut de prince ne suffirait peut-être pas à lui éviter ce sort. N'était-ce pas à cause du vif que les ducs des côtes m'avaient retiré leur confiance et que je m'étais retrouvé dans les geôles de Royal? Rien d'étonnant à ce que Burick eût renoncé à l'usage de cette magie, ni à ce qu'il eût fréquemment menacé de me rouer de coups pour m'en débarrasser, et pourtant, je ne regrettais pas d'en être doué. Malédiction ou bénédiction, elle m'avait sauvé la vie plus souvent qu'elle ne l'avait mise en danger, et je ne pouvais m'empêcher de penser que mon profond sentiment d'unité avec tous les êtres vivants avait embelli mon existence. Je pris une longue inspiration, et avec précaution je laissai mon vif se déployer dans une perception générale de ce qui m'entourait. La présence de Malta et du cheval de la grand-veneuse devint plus nette, tout comme leur conscience de moi. Je vis Laurier non plus comme une cavalière voyageant de conserve avec moi, mais comme une grande créature d'une éclatante santé. Le seigneur Doré, en revanche, demeura aussi inconnaissable que le fou. Même à ce sens particulier que je possédais, il échappait, aussi impalpable qu'une onde de chaleur, et pourtant, il me restait familier précisément à cause de ce mystère. Les oiseaux qui nichaient dans les feuillages m'apparaissaient comme de vives étincelles de vie au milieu des branches. Des plus grands arbres émanaient un puissant flot vert, un jaillissement d'existence, très différent de la conscience d'un animal, mais qui était lui aussi la vie même. J'avais l'impression que mon sens du toucher dépassait les limites de mon corps pour se porter à la rencontre de toutes les créatures qui m'entouraient. Le monde entier chatoyait de vie, et j'appartenais à cette trame lumineuse. Et l'on aurait voulu que je regrette cette unité, que je refuse cette expansion de mon être. « Vous n'êtes guère bavard ?» fit Laurier. Saisi, je repris brusquement conscience d'elle en tant qu'individu. Mes pensées m'avaient emmené si loin que j'en avais oublié la femme qui chevauchait à mes côtés. Elle me regardait en souriant. Ses yeux étaient bleu clair, avec un anneau plus foncé autour de l'iris, et j'observais que, dans l'un d'eux, une touche insolite de vert irradiait de la pupille. Pris au dépourvu, je me contentais de hausser les épaules et de hocher la tête. Son sourire s'élargit. « Il y a longtemps que vous êtes grand-veneuse de la reine ?» demandai-je pour meubler la conversation. Laurier prit un air pensif pendant qu'elle calculait mentalement. « 7 ans, » répondit-elle enfin. « Ah, vous connaissez donc bien Sa Majesté, » fis-je, espérant apprendre ce qu'elle savait de notre mission. « Assez, oui. » Et je sentis qu'elle éprouvait la même curiosité à mon sujet. Je m'éclaircis la gorge. « Sire Doré se rend à Myrteville pour y trouver des oiseaux rares. Il a une passion pour les plumes, » déclarai-je sans oser poser de questions directes. Elle me jeta un regard en coin. « Sire Doré entretient de nombreuses passions, paraît-il, » fit-elle à mi-voix. « Et il a de quoi les payer toutes. » Elle me lança un nouveau coup d'œil, comme pour voir si j'allais prendre la défense de mon maître, mais si ses propos renfermaient une insulte, elle m'avait échappé. Elle reporta le regard devant elle et poursuivit. « Pour ma part, je vais simplement en reconnaissance pour ma reine. Elle aime à chasser le gibier à plumes en automne, et je pense trouver dans les bois de Myrteville ce qu'elle aime le mieux. » Nous sommes donc dans le même cas. Sa prudence me plaisait. Nous allions sans doute bien nous entendre. « Vous connaissez le seigneur Doré depuis longtemps ?» me demanda-t-elle. « Non, pas personnellement, » répondis-je en biaisant. « J'ai appris qu'il cherchait un valet, et j'ai eu la chance de lui être recommandé par un de ses proches. « Vous avez donc déjà occupé ce genre d'emploi ?»« Oui, mais il y a longtemps. Depuis une dizaine d'années, je vivais dans mon coin avec mon garçon. » Mais il est maintenant en âge d'entrer en apprentissage, et pour ça il faut du bel et bon argent. Cette place que j'ai prise, c'est le moyen le plus rapide que je connaisse de le gagner. « Et sa mère ? » demanda-t-elle d'un ton dégagé. « La solitude ne va-t-elle pas lui peser si loin de vous deux ?»« Elle est morte, il y a des années. » Et puis, je songeais que Heur risquait un jour ou l'autre de monter au château de Castelserre, et je décidai de rester le plus près possible de la vérité. C'est un enfant que j'ai adopté. Je n'ai jamais connu sa mère, mais je le considère comme mon fils. Ainsi, vous n'êtes pas marié ? La question me prit par surprise. Non, en effet. Moi non plus. Et elle me fit un petit sourire, comme pour dire que nous avions au moins ce point en commun. Eh bien, comment trouvez-vous Castelserre jusqu'ici ? Assez à mon goût. J'habitais à côté quand j'étais enfant. Tout a beaucoup changé depuis. Moi, je suis de la bourre. J'ai passé ma jeunesse aux dunes de Brandy, mais ma mère venait de Serres, et sa famille vivait près de Myrteville.
Je connais bien la région car je l'ai parcourue en tous sens pendant mon enfance. Cependant, nous avons surtout vécu près des dunes, où mon père était grand veneur du Seigneur bien assis. C'est lui qui nous a enseigné, à mes frères et à moi, tout ce qu'il faut savoir de cette fonction. À sa mort, mon frère aîné a repris sa charge. Mon cadet est allé habiter dans ma famille maternelle, mais je suis resté, et Sire bien assis m'a employé à dresser les chevaux de chasse de ses écuries. Un jour, il y a des années, la reine est venue traquer le gibier chez nous, et j'ai proposé mon aide, car Sa Majesté avait une suite considérable. Elle s'est prise de sympathie pour moi, et... Laurier sourit avec fierté. Je suis sa grand-veneuse depuis lors. Je cherchais une réponse pour entretenir la conversation, quand le Seigneur Doré nous fit signe de nous rapprocher. Je talonnais ma jument, et quand nous fûmes rassemblés, mon maître déclara. Ces maisons que nous venons de dépasser sont les dernières avant longtemps. Je n'ai pas envie qu'on raconte que nous nous sommes pressés à l'excès, mais je ne tiens pas non plus à manquer le seul bac du soir à travers de Fanal. Aussi, braves gens, au galop à présent. Blaireau, nous allons voir si cette jument noire est aussi leste que le prétendait le maquignon qui me l'a vendue. Soutenez l'allure autant que vous le pourrez. Je retiendrai le bac en attendant votre arrivée. Là-dessus, il donna légèrement du talon dans les flancs de Malta et lui lâcha les rênes. Sa monture ne se fit pas prier. Elle bondit en avant et nous laissa sur place. « Mon casque blanc vaut largement sa Malta !» s'exclama Laurier, et elle lança son cheval sur les traces du Seigneur Doré. « Rattrape-les » lançai-je à ma jument, et sa réaction faillit me désarçonner. Elle passa brutalement du pas au galop effréné. Les autres chevaux, plus petits, avaient pris de l'avance. Des mottes de terre jaillissaient sous leurs sabots, et Malta ne gardait la tête que grâce à l'étroitesse de la piste. La longue foulée de ma monture réduisit rapidement la distance qui nous séparait d'eux, et nous nous trouvâmes bientôt sur leurs talons, bombardés de terre et de gravillons. En nous entendant si proches, les deux chevaux de tête firent un nouvel effort, et regagnèrent du terrain, mais je sentais que ma jument n'avait pas encore donné toute sa mesure. Son galop n'était pas à sa pleine extension, et sa cadence me disait qu'elle n'était pas arrivée aux limites de ses capacités. Je tentais de la freiner pour éviter le plus gros de la grêle de mottes, mais elle n'y prêta aucune attention. À l'instant où la route s'élargissait, elle s'engouffra dans l'espace libéré et dépassa mes compagnons en quelques foulées. Je les entendis crier des encouragements à leur monture et je crus qu'ils allaient nous rattraper. Mais tel un énorme chien-loup lancé sur sa piste, ma jument allongea encore son galop pour dévorer davantage de terre à chaque pas et la recracher derrière elle. Je regardai par-dessus mon épaule et je vis la grand-veneuse et Sire Doré qui chevauchait à bride abattue, le visage rougi par l'excitation du défi que leur jetait ma jument. « Plus vite !» lui dis-je. Je ne pensais pas qu'elle en fût capable, mais comme le feu s'élance en rugissant à l'assaut d'un arbre sec, elle accéléra encore. J'éclatai d'un rire de pur bonheur, et je vis ses oreilles battre en réponse. Elle ne me transmit aucune pensée, mais je perçus un vague scintillement d'approbation. Nous n'allions pas si mal nous entendre, finalement. Nous atteignîmes les premiers, le bac de travers de Fanal. Vous venez d'écouter Le Prophète Blanc, L'Assassin Royal, tome 7, de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.